CFM en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Madame, Monsieur, bonjour. Le MAG de CFM Montauban laisse la place à Kader Youb pour Politiquement Votre. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Ton invité aujourd'hui ?
Arnaud Illion, conseiller municipal d'opposition à la mairie de Montauban, conseiller communautaire aussi au Grand Montauban et premier fédéral du Parti Socialiste 82. Bonjour Arnaud Illion, merci d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio.
Bonjour et merci pour l'invitation.
Je vous souhaite une bonne année et je souhaite une bonne année à tous nos auditeurs et auditrices.
Merci pour cette bonne année. Bonne année à vous aussi et bonne année bien sûr à tous celles et ceux qui nous écoutent.
Alors Arnaud Illion, nous allons aborder dans un second chapitre la place de Montauban, la place du Coq, tous ces petits problèmes en ce moment qui émergent.
En effet, les petits problèmes, plus que les petits problèmes.
Qui émergent dans l'actualité de Montauban. Un mot tout d'abord, si vous le permettez, sur l'actualité nationale et ce remaniement qui a eu lieu il y a quelques jours, enfin hier, et la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre en succession d'Elisabeth Borne. Votre avis sur ce remaniement, sur ce qui s'est passé ?
C'est le retour de Sarkozy.
Ah bon ?
C'est le retour de Sarkozy. On a un gouvernement qui pourrait être un gouvernement de Nicolas Sarkozy. Un grand bond en arrière. On se demandait ce qu'était Renaissance, puisque les En Marche ont changé de nom. Mais la Renaissance, c'est la Renaissance du sarkozisme.
Gabriel Attal, c'est quand même quelqu'un qui est issu du Parti Socialiste.
Peut-être il y a longtemps. Oui. Sa vie adulte, j'ai envie de dire, il l'a plus passé à droite chez Emmanuel Macron qu'au Parti Socialiste.
Vous pensez qu'il est de nature à impulser, on le dit énergique, impulser un mouvement sur ce qu'attend peut-être la France ?
Franchement, je pense qu'il n'aura pas les marges de politique pour avancer politiquement, pour faire passer ce qu'il souhaite faire passer. La vraie question, c'est d'ailleurs, quelle est la politique qu'il souhaite mener ? Et là-dessus, il a été très peu clair, très peu explicite. On l'a peu entendu sur la loi immigration, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui reste un très bon communicant politique, je pense, parce qu'il communique. Il communique plutôt bien. Il sent un peu les tendances et il sait ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Mais encore une fois, la politique, ça n'est pas que de la communication politique, c'est de l'action, c'est des choix. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut pour le pays ? Et là, malheureusement, je crains qu'il aura les mains liées par les volontés présidentielles. Hein. C'est le fonctionnement d'Emmanuel Macron. Et puis, factuellement, il y a toujours ce problème de majorité que le président de la République et le Premier ministre n'ont pas à l'Assemblée nationale.
Pour rester sur Gabriel Attal, il a passé quelques mois à l'Éducation nationale avec un bilan somme toute pas positif, parce qu'on ne peut pas redresser un bilan.
A trouvé des mots qui étaient attendus, mais encore une fois, c'est de la communication politique. Et à un moment, ce que l'on attend, c'est des actes.
Ces discours forts, on se souvient notamment par rapport au port de la Baïa dans les établissements scolaires, ces messages forts adressés à tous les recteurs pour qu'il y ait des mesures fermes, ça parle aux gens. C'est un Premier ministre qui est populaire. La première fois qu'un Premier ministre est aussi populaire dans l'opinion publique. Ça compte pour vous ?
Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la première fois qu'on ait un Premier ministre aussi populaire, mais attendons de voir. Il faut voir les gens, il faut pouvoir juger les gens sur le bilan de leur action. Donc, pour le moment, Gabriel Attal, c'est un communicant, c'est sa formation, c'est un communicant politique, ça a été le porte-parole du gouvernement, c'est essentiellement quelqu'un qui communique, et sur ce plan-là, il communique plutôt bien, il est plutôt habile dans ses techniques de communication politique. Mais à un moment, il faut voir les hommes politiques et le personnel politique à l'épreuve des faits, des actions, de l'action politique, des choix qui sont faits et de jusqu'où on est capable de porter un projet. Et pour le moment, sur l'éducation nationale, que je sache, tous les problèmes de recrutement des enseignants sont vraiment absolument pas résolus. On a un déficit de motivation des étudiants. On arrive de moins en moins à trouver des étudiants qui souhaitent exercer ce métier. On a un problème de revalorisation des carrières. Et pour le moment, ça n'est absolument pas résolu. Donc la question de base qui se pose pour l'éducation nationale, c'est comment faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait suffisamment d'enseignants devant pour pouvoir assurer les heures imparties par les programmes.
Ouais, c'est un monde que vous connaissez bien, l'éducation nationale. Est-ce que vous pensez qu'elle elle est à un tournant, cette éducation nationale qui était le fleuron de la France? Est-ce qu'il y a un problème d'éducation nationale?
Non, mais il y a un problème.
Est-ce qu'on ne lui demande pas tout? Alors, et n'importe quoi, l'éducation nationale.
Alors, je pense que l'éducation nationale, on lui demande beaucoup, mais c'est la tradition française, jusqu'aux dernières années, de miser sur sa jeunesse. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois avec mes collègues plutôt à l'international, c'est qu'on est en recul par rapport à d'autres pays. Donc il y a des pays émergents, type la Corée du Sud, le Brésil d'avant Bolsonaro, qui se sont mis tout d'un coup à parier sur la formation de leur population et qui ont mis le paquet, j'ai envie de dire, pour former leur population. L'Inde a aussi énormément progressé. Et pourquoi ces choix sont faits? C'est des choix d'émancipation pour le peuple, mais c'est aussi un choix très rationnel d'enjeux économiques, d'avoir une population formée, bien formée, pour pouvoir agir de manière la plus efficace dans la compétition internationale, entre guillemets.
Entre guillemets, c'est un investissement pour l'avenir.
Mais c'est un investissement énorme. Et la France, depuis la Révolution française, elle a toujours parié sur la formation de sa population. Et depuis une vingtaine d'années, moi j'ai l'impression qu'on joue moins ce jeu-là. Et ça, on le paiera à moyen terme et à long terme. Il ne faut pas imaginer que on va pouvoir, parce que les États-Unis aussi sont sur le même constat en fait. Mais les États-Unis, ils sont encore une puissance très attractive. Ils arrivent à attirer des ingénieurs d'autres pays, notamment d'Asie, pour venir bosser chez eux. Nous, on n'aura peut-être pas ce pouvoir d'attraction, d'attractivité. Et donc, il est absolument nécessaire de former notre population. Au-delà des enjeux, je redis encore, des enjeux d'émancipation, parce que quand on étudie, quand on apprend, eh bien, c'est aussi une ouverture au monde. Mais au-delà de ça, d'un point de vue, si on veut être très rationnel sur un plan économique, on a besoin de former notre population, on aura besoin de renouveler notamment notre personnel technique et scientifique, sinon l'économie ne tournera plus. Alors, c'est ça l'enjeu.
Un dernier mot sur ce remaniement. Le fait de confier l'éducation nationale à Madame Oudéa Castéra avec un autre ministère.
Très mauvais signal. Ouais. Très mauvais signal. Alors après, moi, je n'ai rien contre cette ministre, mais elle va devoir gérer les Jeux Olympiques. De fait, c'est pas rien de gérer cet événement qui est un événement historique au sens propre, j'ai envie de dire, et en parallèle faire en sorte qu'en septembre prochain il y ait un prof devant chaque classe, comme on dit. Mais je comprends pas comment ça va être faisable. Il y a de la légèreté dans ces choix-là.
Un autre choix que vous avez désapprouvé et sur lequel vous avez communiqué, c'est la loi sur l'immigration qui a été votée par le Parlement français. Pardon, c'est la victoire de qui cette loi? Ce nouveau texte, pour vous?
Mais c'est pas une victoire en fait. C'est une défaite à ce texte-là. C'est un texte qui ne résout aucun problème concret. Est-ce qu'il y a un enjeu autour de l'immigration, des migrations de manière générale à l'échelle de la planète? Oui, il y a un enjeu. Il y a un enjeu parce que nous commençons à vivre une période de mutation climatique très forte. Elle induira des mouvements de population qui ne seront pas forcément des mouvements nord-sud. Il y a énormément de mouvements sud-sud. Les gens qui voient le niveau de la mer augmenter au pied de chez eux, ben ils rentrent un peu plus dans les terres. Donc ce n'est pas forcément des migrations à l'échelle du globe que cela induira. Mais il y aura des phénomènes migratoires amplifiés dans les années à venir. Et c'est ça la vraie question. Comment on gère ça? Et cette loi... Rien dans cette loi ne nous prépare à la moindre réflexion. Est-ce qu'après avoir voté cette loi, on réduit le nombre de passeurs à travers la Méditerranée? Est-ce que la moindre enjeu concret est résolu par cette loi? Il n'y a aucun enjeu concret qui est résolu par cette loi. Et en plus, cette loi, elle est inique. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment un problème d'entendre le Premier ministre ou le président de la République expliquer à mi-mot ou même pas à mi-mot que de toute façon, bon, on le sait, elle est inconstitutionnelle et que le Conseil constitutionnel va faire la voiture balai, passer derrière et faire en sorte qu'on ait un texte qui tienne
certaines,
un peu plus la route.
Certaines
mesures pourraient être... scandaleux. Mmh. C'est scandaleux. Je veux dire, c'est irresponsable quand on est en charge politique d'aller faire voter pour avoir une victoire médiatique, pour sortir d'un mauvais moment, d'aller faire voter une loi comme ça, qui donne une victoire idéologique, comme l'a dit elle-même Marine Le Pen, à l'extrême droite, en sachant que de toute façon, bon, y a de tout et n'importe quoi dans cette loi, et que bon, c'est pas grave, le Conseil constitutionnel derrière nettoie. Ça n'est pas responsable, c'est irresponsable.
Mais vous, lorsque des observateurs, y compris de votre sensibilité, disent que le personnel de politique de gauche a un problème avec l'immigration, avec ce sujet-là, cette thématique, qu'il y a presque un déni sur une question taboue sur l'immigration. Est-ce que vous l'entendez, ce mot ? Parce que c'est une loi qui a été plébiscitée par l'opinion publique.
Donc, moi, j'invite les observateurs et les commentateurs à arrêter de commenter ce qui se passait peut-être il y a 20 ans et regarder ce que les partis politiques produisent comme proposition. Donc le Parti socialiste, il a voté des résolutions en bureau national et en conseil national sur ces questions-là. Boris Vallaud s'est exprimé longuement, par exemple, dans un papier à la Fondation Jean Jaurès sur ce que propose le Parti socialiste. Non, c'est pas vrai que nous n'avons pas de proposition. Donc il faut regarder ces problèmes-là en face et avoir une façon, une politique, une proposition politique pour les gérer sur à l'origine. Donc je répète, la question c'est comment on fait pour que les passeurs qui se nourrissent sur la misère humaine, comment on fait pour les contenir ? Comment on fait pour que les candidats au départ comprennent que ce n'est pas forcément un avenir doré qui les attend. Je vous rappelle qu'en France, nous avons un problème le long de la Manche, par exemple, avec des gens qui souhaitent passer de l'autre côté de la Manche, qui souhaitent aller en Angleterre. Donc l'idée fantasmée selon laquelle toute la terre, tous les habitants de pays en problème sur la terre seraient attirés pour venir nous envahir en France, elle est absurde. On n'est même plus aussi attractif que ce que on a pu l'être.
C'est du fantasme.
Il y a une grosse part de fantasme. Donc il faut le prendre rationnellement, il faut regarder les chiffres, les données, il faut s'intéresser aux travaux qui sont produits par des spécialistes. Et au nom de ça, c'est ce qu'on attend, nos parlementaires, au nom de ça, proposer des solutions concrètes pour gérer effectivement les problèmes qui peuvent se poser. Mais ce n'est pas ce qui a été fait avec cette loi. Cette loi, c'est une loi dogmatique, c'est une loi idéologique qui, parce qu'il n'y a pas de majorité, finit par être voté sur un texte qui de l'aveu même de ceux qui l'ont promu, est inconstitutionnel.
On a compris.
C'est vraiment irresponsable d'avoir agi comme ça.
On a compris votre position, Arnaud Illian, invité de Politiquement Vote sur CFM Radio. Vous organisez la vente à la découpe de la Maison du Peuple, un acte inacceptable qui vous chargera d'une responsabilité lourde dans l'histoire de notre ville. Ce sont vos mots, Arnaud Illian, pour condamner la décision de Brigitte Barège de céder la Maison du Peuple à plusieurs acteurs.
Oui.
Économique.
Absolument. Et je pense réellement. Cette Maison du Peuple, c'est un bâtiment qui fait partie de l'histoire de notre ville. Je vous rappelle que c'est un don de la ville de Paris suite aux inondations des années 30 qui a permis de la construction de ce bâtiment. Ce bâtiment, il était destiné à servir les intérêts des Montalbanais et des Montalbanaises. Et aujourd'hui, pour un conflit, j'ai envie de dire presque personnel, entre Madame le maire et un syndicat, elle décide, enfin aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, elle décide de fermer ce lieu, qui est un lieu qui rendait énormément de services à la population. C'est un lieu où vous organisiez des rencontres.
Qui rendait, mais qui n'en rend plus, et quelque part.
Elle le ferme pendant plusieurs années. Elle le ferme, et bien sûr, comme d'habitude, elle se lance dans une suite juridique, judiciaire, pour n'en plus finir. Et pendant ce temps, ce lieu est fermé. Et là, en septembre, elle nous dit, ah ben voyez, c'est fermé, plus personne ne l'utilise. Donc, on le déclasse, et je le vends. Alors effectivement, c'est une vente à la découpe. Une vente à la découpe, ça veut dire qu'on coupe des morceaux et on dit, celui-là, on le vend à quelqu'un, et celui-là, on le vend à quelqu'un d'autre, etc.
Oui, et lorsqu'elle vous répond que la FNAC à Albi, puisqu'il s'agit de la FNAC qui va intégrer normalement ces locaux à...
Comme vous le dites, normalement. Parce que la délibération que nous avons votée, c'est vendre à quelqu'un qui nous dit... Qui va construire une FNAC. Mais il ne s'y engage même pas.
Voilà,
ne s'engage même pas. La ville vend le rez-de-chaussée essentiellement de la Maison du Peuple à une personne qui nous dit qu'elle va ouvrir une FNAC à Montauban.
Une FNAC qui a attiré, d'après les chiffres que la ville, la mairie de Montauban indique, 400 000 personnes en centre-ville depuis son installation. On se rend compte quand même que ça amène du monde, cette enseigne.
Vous croyez les chiffres que publie la ville, mais c'est bien.
En tout cas, je ne crois pas forcément. C'est ce qu'elle annonce.
Il y a de la communication politique. Il faut distinguer les faits de la communication politique.
Lorsqu'on parle de revitalisation de centre-ville,
j'entends. Mais Brigitte Barège, elle nous vend du rêve. Elle nous vend beaucoup de rêves. Et peut-être comme d'autres, vous avez écouté ses vœux. Brigitte Barège assume de vendre du rêve. Elle vend du rêve. Et donc maintenant, elle nous vend du 400 000 personnes qui vont venir du jour au lendemain dans le centre-ville. Mais vous voyez dans quel état il est le centre-ville ?
Justement.
Vous vous rendez compte de la désaffection de ce centre-ville ?
Justement,
vous vous rendez compte de tous ces rideaux qui tombent ? Et puis, si vraiment il y avait besoin d'une FNAC, ce que je ne crois pas, eh bien, vous ne croyez pas qu'il y a suffisamment de surface libre en centre-ville pour pouvoir l'installer ailleurs que dans ce bâtiment emblématique qui est la Maison du Peuple ? Qui est permettait, de créer du lien social, d'organiser des représentations théâtrales, des braderies, des lotos, des dancing. Donc c'est de ça dont on a besoin. Ouais. C'est pas d'une...
Ce serait votre projet pour la Maison du Peuple
de... Mais moi, je n'ai pas...
Généralement, par rapport au centre-ville, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, pour le densifier, le faire vivre ?
Le centre-ville, il mérite, à Montauban, un plan Marshall. Ouais. C'est-à-dire, Brigitte Barège, pendant 20 ans, parce que ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle est aux commandes, elle a organisé une certaine vision des espaces commerciaux sur la ville de Montauban. Et Thierry Deville, son adjoint à l'économie, nous disait lors du dernier conseil municipal ou communautaire, je ne sais plus, disait en me répondant, il y a trois centres-villes à Montauban. Il y a trois centres-villes à Montauban. Alba Sud, Alba Nord et le centre-ville. Alors je ne sais pas si c'est la langue à fourcher, mais c'est ce qu'il m'a dit. Il y a trois centres-villes à Montauban. Mmh. Mais c'est ça le choix qui a été fait. Donc essentiellement, quand Brigitte Barège est arrivée, Alba Sud était construit avec un principe un tiers de commercial, un tiers d'industrie, un tiers de tertiaire. Mmh. Et elle a développé pendant 20 ans la zone Alba Nord, c'est-à-dire autour de la route de Paris, qui s'est agrandie, étalée, de la terre cultivable qui passait en terre constructible pour construire des hangars et de faire des grandes zones commerciales. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Tous ces gens qui sont venus installer des surfaces commerciales standardisées sur cette aire-là, eh bien, forcément qu'ils ont détourné le flux de chalands qui allait au centre-ville vers ces endroits-là. D'autant plus que, c'est ce que vous disent les Montalbanaises et les Montalbanais, moi je ne veux pas aller en centre-ville parce que c'est compliqué pour me garer et il faut payer et je vais gratuitement sur le parking.
Mais lorsqu'elle crée des parkings, vous n'êtes pas d'accord, Arnaud ? Vous parlez de parking, mais lorsqu'elle crée des parkings, vous n'êtes pas d'accord ?
Je ne suis pas d'accord. Déjà, je vous rappelle que la cathédrale est en train de s'effondrer. Bon, donc elle est fermée depuis 3-4 ans maintenant. Elle risque d'être encore fermée pendant très longtemps. Donc vos collègues de la Dépêche ne disaient pas avant 2026, mais je pense que ça sera pour beaucoup plus tard. Qu'il y a un imbroglio judiciaire.
Vous pensez qu'il y a un risque d'effondrement de la cathédrale ?
Mais il n'y a pas. C'est pas moi qui pense. Pourquoi elle est fermée, cette cathédrale ? Pourquoi elle est fermée ? Elle est fermée parce qu'il y a des morceaux de matériaux qui tombent du plafond vers le sol. Il y a une fissure, on passe au pied de la cathédrale, on la voit, la fissure, des deux côtés. Donc c'est pas moi qui pense qu'elle risque de... C'est pas moi, c'est les services de l'État qui l'ont fermée. Donc c'est objectif, c'est un fait. Et Brigitte Barège, elle peut construire un mirador pour balancer dessus des hologrammes et des mappings et faire de la musique et mettre une crèche dehors. Et tout. Mais ça ne changera rien au fait. Cette cathédrale, elle est fermée parce qu'il y a un danger pour les gens qui s'y aventureraient dedans, parce que le sol a bougé et que c'est problématique. Et d'ailleurs, je crois qu'à ce jour, on n'a toujours pas une solution technique pour savoir comment faire pour gérer ce problème-là.
Un autre danger d'effondrement.
Sans parler du financement, sans parler de combien vont coûter toutes ces choses-là.
Pardon, il y a un autre danger d'effondrement, celui-là avéré en tout cas, puisque on a mis la mairie a mis des échafaudages, c'est celui de l'immeuble, de la place du Coq, qui fait couler beaucoup d'encre, et à laquelle vous associez cette... quel est le problème? Puisque la collectivité a répondu hier, a communiqué sur le fait qu'elle avait engagé des sommes pour sécuriser. Qu'est-ce qui vous
Brigitte Barret l'a expliqué dans ses voeux, je le répète, elle nous vend du rêve. Mmh. Elle nous vend du rêve, elle assume, elle vend du rêve.
Place du Coq.
Mais elle ne fait pas des choses concrètement. Elle n'agit pas. Place du Coq. En 2006, Brigitte Barège a préempté sur les étages supérieurs de ce bâtiment de l'ULU à Nantes. Donc elle a fait le choix, alors qu'il y avait quelqu'un qui voulait acheter ces bâtiments-là pour faire je ne sais quoi, elle a fait le choix de l'acheter, pour que la mairie l'achète, que la municipalité l'achète. Et bien sûr, ce bâtiment était dans un état, en l'état, il fallait faire des travaux de mise en sécurisation, et puis des travaux pour arrêter les problèmes s'aggraver. Rien n'a été fait. C'est 2006. Rien n'a été fait jusqu'à 2023. S'il y a eu des arrêtés de mise en péril qui ont été pris. Donc des arrêtés que la mairie elle-même a signés en demandant au propriétaire elle-même de faire des travaux qu'elle n'a pas fait. Voilà. Et en 2023, tout d'un coup, le truc est sur le bâtiment est sur le point de s'effondrer. Mais vraiment sur le point de s'effondrer. Et donc là, la façade est sur le point de tomber. Il faut arrêter en urgence les choses et construire un échafaudage pour maintenir la façade, pour pas qu'elle s'écrase sur la rue.
Mais vous,
donc voilà
ce
qui a été fait.
Vous, aux manettes, vous auriez fait quoi sur ce sujet?
Mais moi, aux manettes, c'est 15 ans auparavant. Qu'on fait. Donc moi, je veux bien qu'on préempte sur un bâtiment en sale état et que pendant 2-3 ans, on ait des expertises, on ait un délai qui fait qu'on n'agit pas. Mais là, ça a duré 15 ans, cette petite histoire. 15 ans à rien faire. 15 ans à attendre les choses se déliter. Et s'aggraver.
Vous irez manifester demain?
Mais bien sûr que j'irai.
Oui.
J'irai. Moi, je souhaite avoir un centre-ville qui ne soit pas muséifié, qui ne soit pas Disneyland, où il faut payer une entrée, ici l'entrée c'est le parking, pour aller regarder des jolis éclairages, etc. Un centre-ville, ça doit vivre. Et pourquoi les gens peuvent aller, pourquoi on peut aller en centre-ville? Quel est l'intérêt d'aller au centre-ville plutôt que d'aller dans une seule zone commerciale? C'est parce qu'un centre-ville... Un centre-ville d'une ville bien gérée, il a son originalité, il a son authenticité. On n'a pas envie d'aller au centre-ville pour retrouver la galerie commerciale du supermarché ou de l'hypermarché local. Et donc, il faut aider nos commerçants indépendants à exister. Il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Donc quand ils se bougent pour faire exister leur rue, leur place, qu'ils organisent des manifestations sympathiques, culturelles, musicales, mais on ne leur met pas des bâtons dans les roues, on les aide.
Arnaud Hillon, c'est l'heure de conclure cette émission. Lorsque vous avez annoncé, vous avez présenté vos vœux à la population au nom de l'Alternative pour Montauban, vous esquissez un petit peu l'avenir, vous jetez les bases d'un futur à construire autour de vous. Est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous irez à la bataille des municipales dans 2 ans?
Mais vous savez, moi déjà, depuis la dernière élection municipale, je fais mon travail d'opposition à Brigitte Barège. Je suis en face d'elle, à tous les conseils municipaux et d'agglomération. Je porte la parole des Montalbanaises et des Montalbanais qui m'ont soutenu. Et ce que je peux vous dire, c'est que je vais continuer. Et Brigitte Barège, elle me trouvera en face d'elle.
Donc, vous vous présenterez?
Ce que je vous dis, c'est que je ferai partie de ceux qui seront face à elle.
Mais pas forcément.
Et elle me trouvera face à elle. Il sera temps, à un moment, de discuter de comment on s'organise.
Qui conduira la liste. D'accord.
Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement déterminé, que je travaille, que j'entends de plus en plus les Montalbanaises et les Montalbanais me dire ce qu'ils attendent de cette ville et me dire leur insatisfaction. Ils sont scandalisés du gaspillage, parce que c'est un énorme gaspillage financier qu'a organisé Brigitte Barège sur ces dernières années. Et donc, il faut agir autrement. Et moi, je n'ai pas du tout confiance en Brigitte Barège, ses équipes, ses successeurs ou je ne sais qui, pour continuer à travailler sur Montauban. Donc, il faut proposer autre chose et elle me trouvera face à elle.
Vous reviendrez nous le dire alors?
Très volontiers.
Merci beaucoup en tout cas, Arnaud Hillon, d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio. Je vous dis à très bientôt.
Merci.
Vos podcasts et replays. Podcasts et replays. CFM Radio.